Frères et sœurs, entendons cet oracle de l'Éternel. Ma maison s'appellera maison de prière pour tous les peuples. Cette proclamation qui retentit dans le livre du prophète Ésaïe devient vérité pour nous ce matin. Nous qui voulons ici nous faire l'écho de cette promesse, à chacun, à chacune, nous redisons la grâce et la paix qui nous sont données de la part de l'Éternel notre Dieu, confirmées par Jésus le Christ. Oui, une maison de prière pour toutes et tous, c'est ce que nous affirmons aussi en cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens, manifestée par la présence de François Picard, supérieur des oratoriens, manifestée aussi par la présence de Marc Pernaud ce matin à la messe à Saint-Eustache, manifestée par notre présence à tous qui nous reconnaissons par-delà toutes les étiquettes, par-delà toutes les chapelles comme frères et sœurs. Eh bien, voilà ce que nous voulons célébrer ce matin, et faisons-le en nous plaçant résolument devant l'Éternel avec le chant du premier cantique indiqué dans le livret liturgique qui figure au début du psautier français. Levons-nous pour nous réjouir au Seigneur, nous égayer en son honneur. Cette année, le thème de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens était ce verset tiré de la première épître de Pierre, appelé à proclamer les hauts faits de Dieu. Eh bien, ce verset nous invite à rendre grâce à Dieu pour tout ce qui nous est déjà donné à vivre ensemble, et c'est dans cet esprit que nous louons l'Éternel. Oui, Dieu notre Père, nous te rendons grâce pour tout ce que tu nous as déjà donné. Nous te rendons grâce pour la fraternité humaine en Christ. Nous te rendons grâce pour ta parole vivante, lumière, nourriture et vie que ton amour nous donne. Nous te rendons grâce pour cet être nouveau que tu fais naître en nous un peu plus chaque jour. Nous te rendons grâce pour toutes ces personnes que ton amour confie à notre amour. Amen. Dans le psautier français, au psaume 65, dans la version de Genève, donc 65b, nous chanterons les strophes 1, 2 et 5 du psaume 65. prenons place pour écouter ensemble la volonté de l'Éternel selon les paroles de Jésus rapportées dans l'Évangile selon Marc. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu, c'est le seul Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. C'est là le premier et le grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aucun commandement n'est plus grand que ces deux-là. Amen. Dieu notre Père, toi qui veux que tes enfants soient un en toi, nous te prions pour l'unité de ton Église. Délivre-nous de nos étroitesses, de nos rancunes, de nos préjugés. Apprends-nous à reconnaître les dons de ta grâce chez tous ceux qui se réclament de toi. Approfondis notre fidélité à ta parole et garde-nous clairvoyants et disponibles entre tes mains. Rassemble ton troupeau dispersé sous la seule autorité de ton Fils et que le monde te connaisse, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, qui nous appelle à aimer par-delà nos chapelles respectives, par-delà nos cercles, par-delà nos fraternités choisies. Amen. Souvenons-nous que l'amour de Dieu s'est manifesté en ceci. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous ayons la vie par lui. C'est ainsi que nous entendons que le Dieu d'amour nous fait miséricorde. Oui, cela nous laisse entendre qu'il nous pardonne et qu'il nous conduit à cette vie éternelle, cette vie libérée de toutes les entraves que nous lui infligeons. La vie éternelle, c'est-à-dire la vie en plénitude. Voilà ce à quoi nous sommes appelés. Amen. Et nous pouvons exprimer notre foi en ces termes. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre. L'Éternel règne. Il est esprit. Il est amour. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur. L'amour de Dieu envers nous s'est révélé en ceci. Alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Il est le chemin, la vérité et la vie, le même hier, aujourd'hui, éternellement. À ceci, tous reconnaîtront que nous sommes ses disciples si nous avons de l'amour les uns pour les autres. Je crois au Saint-Esprit qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Nous avons été baptisés d'un seul esprit pour former un seul corps. La victoire par laquelle le monde est vaincu, c'est notre foi. Seigneur, augmente notre foi. Amen.
Dans le livre de Néhémie, au chapitre 8. En ces jours-là, le prêtre Esdras apportera le livre de la loi en présence de l'assemblée, composée des hommes, des femmes et de tous les enfants en âge de comprendre. C'était le premier jour du septième mois. Esdras, tourné vers la place de la porte des eaux, fit la lecture dans le livre, depuis le lever du jour jusqu'à midi, en présence des hommes, des femmes et de tous les enfants en âge de comprendre. Tout le peuple écoutait la lecture de la loi. Le scribe Esdras se tenait sur une tribune de bois, construite tout exprès. Esdras ouvrit le livre. Tout le peuple le voyait car il dominait l'assemblée. Quand il ouvrit le livre, tout le monde se mit debout. Alors Esdras bénit le Seigneur, le Dieu très grand, et tout le peuple, levant les mains, répondit « Amen, Amen ». Puis ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant le Seigneur, le visage contre terre. Esdras lisait un passage dans le livre de la loi de Dieu, puis les Lévites traduisaient, donnait le sens, et l'on pouvait comprendre. Néhémie, le gouverneur, Esdras, qui était prêtre et scribe, et les Lévites qui donnaient les explications, dirent à tout le peuple, « Ce jour est consacré au Seigneur votre Dieu. Ne prenez pas le deuil, ne pleurez pas, car ils pleuraient tous en entendant les paroles de la loi. » Esdras leur dit encore, « Allez, mangez des viandes savoureuses, buvez des boissons aromatisées et envoyez une part à celui qui n'a rien de prêt, car ce jour est consacré à notre Dieu. Ne vous affligez pas, la joie du Seigneur est votre rempart. » Dans l'évangile de Luc, au chapitre 1, Beaucoup ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous d'après ce que nous ont transmis ceux qui, dès le commencement, furent témoins oculaires et serviteurs de la parole. C'est pourquoi j'ai décidé, moi aussi, après avoir recueilli avec précision des informations concernant tout ce qui s'est passé depuis le début, d'écrire pour toi, excellent Théophile, un exposé suivi, afin que tu te rendes bien compte de la solidité des enseignements que tu as entendus. En ce temps-là, lorsque Jésus, dans la puissance de l'Esprit, revint en Galilée, sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues et tout le monde faisait son éloge. Il vint à Nazareth où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Ésaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » Jésus referma le livre, le rendit au servant et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Nous prenons le cantique 338. Seigneur, nous te remercions de nous avoir réunis en ta présence pour nous révéler ton amour et nous soumettre à ta volonté. Fais taire en nous toute voix autre que la tienne et de peur que nous ne trouvions notre condamnation dans ta parole, entendue sans être reçue, connue sans être aimée, écoutée sans être mise en pratique. Ouvre par la puissance de ton esprit nos esprits et nos cœurs à ta vérité, au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre, que nous venons d'entendre. Dans les deux textes que nous venons d'écouter, il est question de l'actualité de l'Écriture, de la promesse de Dieu. Il est question d'un texte qui prend vie, de mots écrits reçus comme paroles de vie, comme paroles d'espérance par ses auditeurs, donc comme paroles cohérentes avec la promesse que Dieu a donnée à son peuple au cours de son histoire, de lui donner vie, de lui donner avenir. Dans le livre de Néhémie, nous sommes au retour de l'exil à Babylone. Le scribe Esdras lit la Torah aux habitants de Jérusalem. Dans l'Évangile, Jésus lit un passage du livre d'Ésaïe qui évoque probablement la mission d'un grand prêtre à l'occasion d'une année jubilaire. Dans les deux cas, le texte est reçu par ses auditeurs comme une parole vivante, une parole qui suscite des réactions dans l'auditoire, une parole porteuse de sens grâce à l'interprétation qui en est donnée, une parole qui signale l'actualité de la promesse de Dieu. Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. Ce qui est raconté par Néhémie à propos de la loi de Moïse, ce qui est raconté par Luc à propos de Jésus, est une expérience qui nous est proposée à nous aussi aujourd'hui. Comme nous venons de le prier avant d'entendre les lectures, cherchons comment aujourd'hui encore, dans l'aujourd'hui de 2016, nous pourrions confesser et célébrer à leur lecture que s'accomplit toujours la promesse de Dieu à son peuple. Avec le livre de Néhémie, nous sommes renvoyés au VIe siècle avant Jésus-Christ. L'exil à Babylone a pris fin avec la victoire de Cyrus, roi de Perse, un roi étranger, un roi païen pourtant perçu comme un envoyé du Seigneur. Le retour des déportés à Jérusalem avait provoqué quelques tensions avec leurs coreligionnaires restés à Jérusalem. Souvent membres de l'élite, les conceptions religieuses des premiers avaient évolué au contact des païens au milieu desquels ils avaient vécu. Et à Jérusalem, beaucoup voyaient d'un mauvais œil leur retour en les suspectant de s'être contaminés, d'être devenus impurs au regard de la loi de Moïse. À l'inverse, ceux qui étaient restés à Jérusalem prétendaient avoir gardé l'authentique judaïsme sur la terre de leur père. Dans ce contexte de tensions, de débats, de discussions, la Torah et le rétablissement du culte dans le temple de Jérusalem ont joué un rôle décisif pour aider les uns et les autres à puiser aux sources de leur foi et chercher ensemble comment approfondir leur fidélité à la promesse de Dieu pour chercher comment discerner les signes de son actualité en des temps renouvelés. C'est pourquoi lorsqu'Esdras utilise le terme « rempart » dans la phrase « La joie du Seigneur est votre rempart », l'ensemble des auditeurs se trouvent en train de reconstruire la ville, de reconstruire son temple, de reconstruire ses remparts. Le lecteur du livre de Néhémie perçoit alors le déplacement auquel Esdras invite ses auditeurs. Le rempart dont il s'agit est moins le rempart de pierre, moins l'enceinte de la ville, que le rempart contre la nostalgie de l'ancien monde, celui d'avant l'exil, avec ses institutions disparues. Le peuple juif, au retour de l'exil, a perdu son indépendance nationale. Esdras l'invite à chercher une raison d'être comme communauté religieuse et à la chercher en puisant dans l'obéissance à la loi du Seigneur, les ressources pour vivre les exigences de la situation présente. Et c'est dans la joie, la joie du Seigneur qu'il parviendra à revivre. Ce déplacement, nous le retrouvons dans le Nouveau Testament, lorsque Pierre invite les communautés chrétiennes à vivre en pierre vivante. Lorsque Jésus se présente comme le temple qu'il peut reconstruire en 3 jours, lorsque lui-même est présenté comme la pierre angulaire du temple de l'Esprit qu'est l'Église de Dieu. Plus récemment, nous retrouvons le même déplacement dans un texte du Concile Vatican II, Gaudium et Spes, repris depuis par le pape Jean-Paul II à propos du mot « sanctuaire ». Gaudium et Spes présente la conscience de l'homme comme le sanctuaire, le lieu où il est seul avec Dieu et où sa voix se fait entendre. Les événements que nous connaissons, les défis qu'il lance à l'homme qui veut les relever, sont ainsi autant d'opportunités pour approfondir l'actualisation de la promesse de Dieu, c'est-à-dire en rechercher l'actualité, en cherchant comment les textes de l'Écriture, paroles d'espérance et de vie, deviennent signes de l'actualité de cette promesse. Dans l'Évangile de Luc, Jésus lit un passage du livre d'Ésaïe qui raconte l'ouverture d'un jubilé par un grand prêtre, célébration à l'occasion de laquelle celui-ci présente sa mission. Je cite, nous l'avons entendu, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » Et Jésus de commenter « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » La réception du texte d'Ésaïe permet à l'évangéliste de présenter Jésus comme celui qui accomplit les Écritures. Ou pour reprendre les termes d'un autre passage de l'évangile de Luc, l'évangile d'Emmaüs, de chercher à comprendre ce qui concernait Jésus dans les Écritures, c'est-à-dire dans notre Ancien Testament. Et à nouveau, un passage de l'Écriture devient signe de l'actualité de la promesse de Dieu, signe de l'actualité dans l'accueil et la réception qu'en font le lecteur et ses auditeurs grâce à tout un jeu d'interprétation. Et de fait, ne confessons-nous pas Jésus comme le serviteur de Dieu, celui qui a renouvelé l'espérance des pauvres, celui dont Matthieu nous dit dans sa grande fresque du jugement qu'il s'est identifié avec les pauvres, les malades, les prisonniers, celui que l'on ne peut servir qu'en servant les pauvres, les captifs, les aveugles, les opprimés, les oubliés, celui que l'on ne peut servir qu'en les servant à la manière du serviteur de Dieu, lequel ne se contente pas d'agir pour ou en faveur des opprimés, mais qui s'identifie à eux, qui agit avec eux, qui épouse leur cause. Celui que l'on ne peut servir qu'en se reconnaissant soi-même, pauvre, malade, captif, aveugle et opprimé. Celui que l'on ne peut servir qu'en se reconnaissant préalablement bénéficiaire de l'action du serviteur de Dieu. À nous qui, à notre tour, écoutons, méditons les passages de l'Écriture aujourd'hui, un aujourd'hui qui est celui de 2016, comment comprendre, confesser et célébrer l'accomplissement de la promesse de Dieu de donner vie et avenir à son peuple aujourd'hui encore. Où, quand, à propos de quel texte et selon quels critères pouvons-nous reconnaître, confesser et célébrer aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que nous venons d'entendre. La proposition chrétienne désigne le chemin emprunté par le serviteur de Dieu, le Verbe incarné dans la puissance de l'Esprit-Saint. Donner chair à l'Écriture, notre chair, en revêtant la tenue du service, en nous dépouillant de nous-mêmes, de nos intérêts individuels et en préparant les chemins du Seigneur pour qu'il guide nos pas au chemin de la paix. La conversion que nous avons à vivre pour revêtir la tenue du service à la suite de Jésus n'est pas d'emblée une conversion religieuse. Dans une perspective chrétienne, cette conversion nous est indiquée par les questions qui se posent à notre génération en 2016. Comment les abordons-nous ? Car nous aussi, comme Esdras et la communauté juive de l'époque, nous quittons un monde ancien et nous contemplons avec un mélange d'enthousiasme et d'inquiétude ce monde nouveau qui émerge à travers de nombreuses mutations, de profondes mutations climatiques, anthropologiques, géopolitiques, des mutations économiques, culturelles, religieuses, dont nous savons qu'elles affectent déjà le quotidien de millions de personnes. Dans les questions que suscitent ces mutations, où et comment résonnent les appels de l'Esprit Saint ? En faveur de quelle solidarité ? Pour préserver quels intérêts au plan personnel, mais aussi au plan national ? Avec le prophète Esdras, coupons avec la nostalgie du monde ancien, pour habiter la joie de Dieu, la joie que Dieu met dans son serviteur qui prépare les chemins du Seigneur, pour qu'il guide nos pas sur le chemin de la paix et de l'unité. Mais l'évangile de Luc nous prévient que cette même joie de Dieu ne sera complète tant que toutes les brebis du troupeau n'en bénéficient pas. Si l'écuménisme peut aujourd'hui trouver un nouveau souffle, n'est-ce pas en devenant ensemble les metteurs en scène de la manière dont nous pouvons puiser dans l'Écriture les ressources dont nous avons besoin pour affronter et relever les défis qui se posent à notre génération. Comme au théâtre, à chaque représentation de théâtre, un texte, des mots mis par écrit par un auteur qui a vécu autrefois, ce texte prend vie. Il prend vie grâce à une mise en scène, grâce à une interprétation, grâce au jeu des acteurs. Et n'est-ce pas ce que nous faisons lors de nos célébrations liturgiques grâce à l'action de l'Esprit-Saint? Donner vie à un texte en nous engageant ensemble, nous le faisons déjà de façon écuménique. Par exemple, à l'ACAT, l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture, une association écuménique qui a fêté ses 40 ans et grâce à laquelle catholiques, protestants, orthodoxes, nous agissons ensemble au nom de notre compréhension chrétienne de la dignité de l'homme, pour l'abolition de la torture, pour l'abolition de la peine de mort et pour le respect du droit des réfugiés. Édith Duterte et Hélène Angèle, deux femmes protestantes, avaient puisé dans leur foi l'énergie de relever le défi de la torture dans le contexte de la guerre du Vietnam. Pour des milliers de prisonniers libérés grâce à elle, le passage du livre d'Ésaïe que nous avons entendu ce matin s'est accompli pour eux. En créant la CAT, elles ont su mettre en scène un texte qui, à travers elles et à travers l'ensemble des militants de la CAT, est devenu parole de vie, parole d'espérance et donc signe de l'actualité de la promesse de Dieu. Face aux défis qui sont aujourd'hui devant nous, puisse notre génération puiser dans l'écuménisme les ressources nécessaires pour mettre en scène ces passages de l'Écriture et dans la puissance de l'Esprit à la suite de Jésus, ouvrir des chemins d'espérance sur lesquels nous pourrons confesser et célébrer ensemble aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. Amen.
Dans les annonces de cette semaine, il y a tout d'abord, vous annoncez le décès du professeur Raphaël Picon, décédé jeudi soir. Un culte d'action de grâce sera probablement célébré vendredi à 14h au Temple de l'Étoile, avenue de la Grande Armée. Les choses ne sont pas encore tout à fait confirmées, donc si vous le souhaitez, vous pourrez tout simplement, dans le courant de la semaine, me demander et on essaiera de vous faire circuler la confirmation de cela. Dans le reste de nos activités de la semaine, jeudi, il y aura la répétition du chœur à 19h30, salle mono. Samedi, à 12h30, un repas sera organisé pour les lycéens. Samedi et dimanche, ce sera l'Assemblée générale de la Fédération protestante de France. C'est l'occasion aussi de soutenir dans leur ministère non seulement les membres de l'Assemblée, peut-être tout particulièrement les membres de notre communauté qui sont aussi au Conseil de la Fédération protestante de France. Pensons aussi bien à Isabelle Veillé qu'Antoine Durleman, que bien sûr le pasteur François Claveroli qui préside ce conseil. Dimanche prochain, le culte sera donc à 10h30 comme d'habitude et suivi d'un moment d'accueil et de rencontre à l'issue de la cérémonie dans la grande sacristie. Et l'après-midi, pour ceux qui le souhaitent, la possibilité de rester, de partager un repas et de pouvoir aller visiter un musée ou organiser une promenade selon l'intérêt des uns et des autres. Je vous rappelle que dimanche 7, c'est le premier dimanche du mois, que ce sera donc l'occasion de notre repas paroissial avec, pour cette fois-ci, des produits issus de l'agriculture d'Île-de-France. C'est maintenant le moment de l'offrande, et bien que ce soit l'occasion pour nous de donner à l'Église les moyens dont elle a besoin pour accomplir ses missions. Je vous propose de chanter le cantique 278, levons-nous pour chanter ce cantique plein de foi et d'espérance. Nous chanterons les strophes 1, 2 et 4 du cantique 278. Restons debout et unissons-nous dans la prière. Dieu de miséricorde, nous implorons ta lumière pour chacun de nous, pour toutes nos communautés. Donne-nous d'être toujours plus accueillants et plus compréhensifs à l'égard d'autrui. Donne-nous ainsi de faire reculer le mépris et la haine en notre monde. Donne-nous de faire avancer une fraternité large, élargie à l'horizon de l'espérance que tu formes pour nous. Dieu de miséricorde, enseigne à tes enfants cette charité, cette hospitalité, cette unité qui sont l'expression de ce que tu révèles et que tu veux pour notre humanité. Dieu de miséricorde, nous t'en supplions. Accorde-nous la paix et fais de nous les bâtisseurs d'un monde respectueux et non violent. Dieu de miséricorde, toi qui nous as parlé à travers la création, puis par les prophètes et encore par ton Fils Jésus-Christ, accorde-nous la sagesse qui nous fera entendre ta voix, nous appelant à l'unité dans notre diversité et faisant de notre vie, de notre éthique, de nos paroles, l'occasion de faire retentir que ta parole s'accomplit aujourd'hui encore. Et toutes nos intentions, nous les rassemblons dans cette prière que Jésus a enseignée à ses disciples. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Frères et sœurs, le Dieu de l'espérance nous comble de toute joie et de toute paix dans la foi, afin que nous débordions d'espérance par la puissance de l'Esprit. Amen.